Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de l'écho à contre-courant où, en cette période d'ouverture de la campagne électorale, nous allons nous intéresser à un ouvrage assez impressionnant sorti aux éditions Amsterdam et qui s'appelle « Le Nouveau Monde, tableau de la France néolibérale ». Un ouvrage de 1050 pages avec 87 auteurs et plus d'une centaine d'articles et qui effectivement dresse, comme l'indique son titre, un tableau de la France à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec donc dedans des auteurs que nos abonnés et nos lecteurs connaissent, parmi lesquels Frédéric Lordon, Johan Chapoutot, François Bégodeau, Bruno Amable, Stefano Balambarini, Laurent Binet, Pierre Cerna. Bon, on ne va pas tous les citer car il y en a 87, mais en tout cas, cet ouvrage a comme fonction effectivement de pouvoir donner une image de notre pays alors que, justement, se termine ce quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors, pour en parler, nous recevons un des coordinateurs de cet ouvrage. Il y a trois coordinateurs, Anthony Bourlot, Grégory Rzepski, pardon, et Alain Poplar, que nous recevons donc aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Donc, ma première question, elle est simple, c'est finalement, quelle est la genèse de cet ouvrage? Qu'est-ce que vous avez essayé, justement, de réaliser avec un ouvrage aussi colossal en cette fin de quinquennat et finalement, pourquoi avoir choisi la forme du tableau avec tous les détails et à travers les 9 parties de ce livre, finalement, il y a ce luxe de détails sur la société française.
Oui, alors bon, c'est un livre qui est le 10e ouvrage, en réalité, d'une collection dont je m'occupe, aux éditions Amsterdam, une collection qui s'appelle « L'ordinaire du capital » et qui, normalement, cherche à saisir, à travers des objets, des lieux, des figures, ce que le capital fait ordinairement, prosaïquement, à nos sociétés. Mais ce livre-là se distingue complètement des précédents. Et ce qu'on a essayé de faire avec Anthony Bourlot et Grégory Rzepski, c'est, comme vous l'avez rappelé, de fabriquer un tableau qui permette de, aussi ample et détaillé que possible, mais un tableau de la société française aujourd'hui, à un moment qui est un moment particulier, qui est un moment de bascule sur lequel on pourra peut-être revenir, en tout cas un moment qui approfondit des dynamiques qui sont à l'œuvre depuis maintenant plusieurs décennies. Et ce tableau, on l'a fabriqué pour en faisant appel à une centaine d'auteurs, enfin un peu moins, en commandant une centaine de textes qui, dans des approches, des tons, des cadrages qui sont différents les uns des autres, nous semble-t-il permettre de saisir quelque chose du moment dans lequel on se trouve.
Alors il y a quelque chose de ce quotidien du capital néanmoins dans ce livre, hein, parce que c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup, on y reviendra tout à l'heure, mais qu'on s'intéresse beaucoup en fait aux vies quotidiennes, aux petits détails finalement, aux structures un peu de cette vie quotidienne. Il y a un article sur le jogging, il y a un article sur finalement la technologie qui occupe nos vies. Enfin voilà, il y a ces choses-là. Donc on reste quand même dans cette logique de faire le lien entre ce que l'économie capitaliste fait à la vie quotidienne.
Oui, ce livre-là, il a cherché à répondre à des questions simples. Hein. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France? À quel moment est-ce qu'on se trouve? Comment est-ce que le macronisme s'inscrit dans des dynamiques économiques, politiques, sociales anciennes? Et donc ces questions simples, on essaye en effet d'y répondre en mettant à jour les structures, mais aussi en montrant comment le néolibéralisme finalement façonne jusqu'au plus intime des vies des Français.
Et ça, c'est effectivement, ça se voit dans la diversité des formes que prennent les articles, hein, parce qu'on a des articles très classiques, presque des articles académiques d'une certaine façon à certains moments, et puis on va avoir des formes qui sont plus poétiques, plus aphoristiques, plus, disons, courtes parfois. La partie dont on reparlera, qui est la partie mythologie, sont des petits articles de 2-3 pages. Cette diversité-là aussi, elle était importante pour vous ?
Oui, c'est l'idée même du tableau. C'est-à-dire qu'on essaye de rendre quelque chose, une réalité, de la manière la plus sensible qui soit. Et on essaye de la rendre sensible justement en multipliant les formes de texte qui permettent de rendre d'abord la lecture agréable. Hein. Ce livre-là, il fait 1050 pages, mais il n'a rien d'un monolithe. C'est un livre qu'on peut parcourir, dans lequel on peut se promener, qu'on peut prendre, qu'on peut désosser en fonction des intérêts qui sont les ceux du moment, et qui en effet, par la littérature, par l'enquête sociale, par
les témoignages,
par
aussi.
Les témoignages, par des formes qui relèvent davantage du peut-être de l'essai ou du registre polémique, permettent par profils successifs de saisir ce qui fait l'intérêt et la spécificité du moment dans lequel on se trouve.
Une des questions que je me suis posée en parcourant ce livre, c'est finalement, c'est un tableau de la France fait de l'intérieur de la France. C'est-à-dire qu'on n'a pas de vision décentrée, on a, dites-moi si je me trompe, mais il n'y a pas d'auteur étranger, il n'y a pas de comparaison France avec d'autres pays, ou très peu. Il y a quelques articles sur l'Allemagne, mais qui sont du point de vue français, en tout cas approchés de cette façon-là. Est-ce que là aussi, c'était un choix que vous aviez fait, finalement, de décrire la société française par elle-même, ou d'avoir une autre sorte d'autoportrait de la France, où finalement, vous vous êtes dit, on est déjà à 1050 pages et on peut guère aller plus loin.
Non, alors il y a quelques, enfin sauf erreur, il y a quelques auteurs étrangers. C'est vrai qu'ils sont pas nombreux, mais le choix qu'on a fait, c'est de partir du cas français, qui pour nous en fait est la France, une communauté nationale dans laquelle les choix démocratiques ont vraiment un sens. Et donc c'est cet espace-là qu'on a essayé de circonscrire, mais il me semble qu'on a, malgré tout, on n'a pas évacué la question des comparaisons internationales, puisque cette histoire du néolibéralisme à la française, on l'a réinscrit, on en fait la généalogie, et on essaie de la réinscrire dans un cadre international, en montrant comment les échos qui ont pu exister au Royaume-Uni, en Allemagne, en Europe. Et puis, plus largement, il y a des chapitres qui réinscrivent le cas français dans un cadre international. C'est le cas du chapitre sur l'Union européenne. C'est aussi le cas, peut-être, d'un chapitre montre comment la puissance française a été construite sur un, ou repose plutôt sur un mode de vie impérial, et puis sur des traités de libre-échange qui vont capturer la richesse à l'étranger.
Il y a un caractère pour vous un peu exemplaire justement à la France dans cet espace néolibéral contemporain, justement parce que, comme vous le dites, d'une certaine façon, la France avait une forme de supériorité, avait un choix démocratique plus fort que peut-être d'autres pays jusqu'ici, qui permettait de tracer une voie particulière, et c'est ça qui est finalement aujourd'hui en question depuis 4 ans.
Oui, alors ce qu'on essaye de montrer en effet, c'est que peut-être l'imposition du néolibéralisme en France a été plus compliquée que dans d'autres pays où les compromis sociaux dominants n'étaient pas les mêmes. Et finalement, le moment dans lequel on se trouve, le moment macronien en quelque sorte, il arrive à retardement. Il arrive à retardement et il s'est construit, c'est ce qu'évoque Bruno Amable et Stefano Palombarini dans leur papier, il arrive parce qu'il y a eu une crise endogène des blocs sociaux qui jusque-là structuraient la vie politique française, et de cette crise-là est née une nouvelle alliance sociale, le bloc bourgeois, c'est comme ça qu'il le nomme, qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir avec un projet, celui de réaliser enfin le vieux rêve, parce que c'est un rêve ancien, des modernisateurs français, le rêve d'imposer en France une société et une économie néolibérale.
Alors, on ne va pas rentrer malheureusement dans le détail des 9 grandes parties du livre, qui sont effectivement très riches et très diverses, mais on va peut-être s'arrêter sur quelques moments assez forts. Vous avez commencé à l'évoquer, la première partie, elle est titrée « Séparatisme de la bourgeoisie ». Finalement, dans ces deux mots, « séparatisme » et « bourgeoisie », il y a déjà, je dirais, les première base de ce tableau, c'est-à-dire séparatisme, c'est le terme qui est utilisé par le gouvernement et Emmanuel Macron pour décrire une sorte de risque extérieur ou intérieur, mais qui menacerait la République, la bourgeoisie qui, en fait, est, à travers le bloc bourgeois, essaye de reprendre effectivement le contrôle du pays. Donc il y a un peu cette idée à travers cette première partie et ce premier titre, de montrer un écart grandissant entre le discours de la domination, qui essaye de montrer le problème ailleurs, et la domination elle-même, la réalité de cette domination elle-même.
Oui, ça, je disais à l'instant que le livre s'ouvre, c'est la scène inaugurale de 2017, où le bloc bourgeois porte Emmanuel Macron au pouvoir, mais au-delà de la figure, au-delà de cette scène inaugurale, de ce moment très particulier, et puis au-delà de la figure de Macron qui, de toute façon, finalement, importe assez peu et finira par disparaître, il a été question dans le livre de décrire ce groupe social, de décrire la bourgeoisie, et de décrire sa propension de plus en plus manifeste à la sécession ou au séparatisme. On a essayé de décrire, et c'est la manière dont, en France, le tamis de l'argent et le tamis du savoir créaient une bourgeoisie héréditaire, une bourgeoisie qui, finalement, finissait par fonctionner comme une contre-société de surdiplômés, qui vit au cœur des métropoles, qui, convaincu qu'elle incarne l'empire du bien et de la vertu, passe son temps à prescrire les formes de la vie bonne à tout le monde, et qui finit, de pas en pas, à basculer dans une économie morale qui n'est plus celle des classes populaires. Et donc, ce qu'on a essayé de décrire, c'est cette déconnexion croissante entre une fraction importante de la société, je vais en dire un mot peut-être, et le reste, le grand nombre. Et en décrivant les ressorts, notamment donc, le diplôme, hein, qui est un ressort très important aujourd'hui, les ressorts de cette révolte des élites, on a essayé peut-être de faire pièce à un débat qui, de notre point de vue, est mal posé, l'opposition entre les 1% et les 99%. Parce que ce débat-là, cette découpe sociale, elle occulte, elle masque un phénomène majeur, c'est qu'il existe en France une élite de masse, comme dirait Todd. C'est-à-dire des gens qui ne composent pas les 1% de la société, qui ne sont pas la fraction dominante de la classe dominante, mais qui sont 10%. Et puis autour de ces 10%, il y a un lot encore qui l'accompagne. C'est par exemple en 2017, c'est 40% d'enseignants qui votent Macron au premier tour. Donc on a ici, plutôt que de mettre le projecteur sur les 1%, sur l'oligarchie, on a décidé de s'intéresser à ces 10%, à ces 15%, sans lesquels ces 1% ne pourraient ni installer ni perpétuer leur domination.
Donc c'est sortir finalement d'une forme de manichéisme où on aurait effectivement une sorte d'oligarchie qui imposerait de façon directe, on va dire, son pouvoir sur effectivement 99%. En fait, il y a un lien entre ces 1% et le pouvoir qui sont en fait tous les autres qui leur permettent finalement de renforcer ce pouvoir parce qu'ils adhèrent d'une certaine façon au récit de cette
oui,
oligarchie.
C'est ça. Un manichéisme ou une simplification et en même temps une impasse stratégique. Ce livre-là, il n'est pas en aucun cas un programme politique, mais il essaye de décrire la société telle qu'elle est et donc de l'interpréter le plus correctement possible. Donc oui, c'est ça, c'est cette société-là qui verrouille l'ordre. Et sans lesquels les 1% qui existent, hein, ces 1%-là ne pourraient pas tenir une heure au sommet du pouvoir.
Alors vous l'avez un peu dit, mais il y a un élément important dans ce séparatisme qui est finalement, qui est aussi le revers de ce séparatisme, qui est un enfermement idéologique où finalement cette bourgeoisie, appelons-la comme vous l'appelez et à juste titre, construit elle-même, finalement, un discours d'auto-justification, une langue qui lui est propre, des médias qui servent finalement de justification à ses propres décisions. Et toute la fin de la première partie, avec des articles de François Bégaudeau, de Frédéric Lordon, de Samuel Gontier, de Nathalie Quintane, montre justement à la fois comment la langue, les médias, la réalité presque, devient d'une certaine façon parallèle à cette réalité que vivent l'essentiel des classes populaires.
Oui, vous avez raison, il y a vraiment tout un appareil, un dispositif idéologique qui permet à ces 10%-là, à la bourgeoisie, de tenir et de se maintenir au pouvoir. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le discours qui fonctionne le mieux, c'est le mérite. C'est la question de la méritocratie qui, de plus en plus, joue contre la démocratie. Et ouvertement, de plus en plus ouvertement, les classes dominantes qu'on décrit dans cette première partie-là ont l'impression, en tout cas c'est comme ça qu'elles le formulent, ont l'impression de ne devoir leurs privilèges qu'à leur travail. Et donc ne tiennent plus aucun compte du reste de la société, ne leur rendent plus compte. Et en cela, ils sont aidés par, en effet, vous avez raison, par tout un appareil qui vient sur lequel cette domination-là est adossée. L'appareil médiatique, évidemment, le texte de Samuel Gontier, dans cette première partie-là, revient sur le rôle de l'idiotocratie dans le maintien de l'ordre en France. Plus loin dans le livre, celui de Sophie Eustache, lui, revient sur ce qu'elle appelle le journalisme de préfecture, qui lui aussi vient disqualifier les mouvements populaires, les oppositions populaires à l'ordre dominant. Bref, donc évidemment, les médias jouent un grand rôle. Et les autres textes montrent en effet comment la langue, comment les dominants ne parlent plus la même langue que le reste de la société. C'est ce que, dans son texte, Frédéric Lordon décrit très bien, c'est-à-dire qu'il y a un délabrement de la langue idéologique qui finit par ne même plus faire semblant et qui manifeste de manière complètement déboutonnée la violence du monde qu'elle...
Et qui en même temps se justifie par une forme de morale permanente à l'encontre justement de ce qui est en dehors d'elle-même, de ce que sont les classes populaires et qui seraient effectivement des assistés, des paresseux, des gens qui comprennent rien. Il y a toute une forme aussi dont vous parlez dans la partie opposition où justement il y a ce mépris du pouvoir qui est aussi une des parties de votre livre. Ce mépris du pouvoir finalement c'est aussi un ressort de sa domination finalement.
Oui, bah le mépris, hein, on a tous en tête les expressions qui ont émaillé ce quinquennat, qui sont des expressions absolument effarantes. Les fignants, les gaulois réfractaires, bref, les gens qui ne sont rien, bon, tout le monde les a en tête. C'est-à-dire la bourgeoisie héréditaire qu'on vient de décrire, celle qui assoit sa domination qui la justifie par le discours méritocratique, vit dans un monde finalement social tellement séparé, tellement distant du reste de la société qu'elle finit par entretenir avec elle, la société, un discours qui est à la fois moral et disciplinaire. Et les formes du mépris qu'on a essayé de décrire envers le petit nombre comme envers le grand nombre sont multiples. Évidemment, c'est le mépris que l'élite au pouvoir a pour les travailleurs d'une manière générale. Hein, le livre décrit, je pense, assez longuement et à différents moments la manière dont la vie des paysans, la vie des ouvriers, et maintenant, puisque le niveau de l'eau monte, la vie des cadres, importe finalement peu. Et puis, au-delà du travail, eh bien, il y a toute une série toute une fraction de la population française qui, pour quand elle cherche un travail, quand elle se heurte à la police, quand elle cherche un logement, évidemment, subit un système discriminatoire et le racisme.
Et ça nous amène finalement à la conséquence de ce séparatisme. Finalement, ce séparatisme, pour tenir aujourd'hui, et c'est peut-être un des éléments sur lequel on doit réfléchir aujourd'hui, là, à quelques mois de l'élection présidentielle, eh bien, elle a recours à une forme d'autoritarisme croissant qui prend des formes différentes. Hein, la montée de l'extrême droite et des vocations des différents partis ou mouvements autoritaire, le fait qu'aujourd'hui la droite et le centre défendent finalement des positions autoritaires, mais qui ne sont pas forcément étrangères non plus à certains partis de centre-gauche. Finalement, c'est la sixième partie de votre livre, hein, cette dérive autoritaire qui est décrite en détail. Finalement, c'est la conséquence de cette domination de ce que Pierre Cernin appelle l'extrême-centre, hein, qui est une figure récurrente de l'histoire française, et qui finit toujours, finalement, par se retourner contre sa propre population pour imposer, justement, cette morale du bien, ou ce qu'elle croit être le bien, selon ses critères.
Oui, l'intérêt, de l'article de Pierre Cernin, donc, qui porte sur l'extrême-centre, c'est de montrer que ce qu'on vit aujourd'hui, finalement... à une histoire peut-être inscrit dans une histoire longue, de longue durée. Pierre Cernat décrit le moment de la Révolution française, le moment thermidorien, qui suit la Convention montagnarde et où la République des propriétaires reprend ses pleins droits. Et sous un discours de modération qui prétend tenir à l'écart les passions populaires, eh bien, met en œuvre un programme qui... un programme de retour à l'ordre social, politique, et qui emprunte les voies de la violence. La dernière partie dont vous parlez, celle qui porte sur le néolibéralisme autoritaire, finalement, essaie de décrire les différentes formes de maintien de l'ordre qui existent aujourd'hui. Alors, notre idée, je crois, c'est pas de dire qu'il y aurait quelque chose de nouveau aujourd'hui. Pour nous, la violence, elle est inhérente, elle est constitutive du néolibéralisme et de la dynamique néolibérale. En France, c'est ce dont on discutait un peu au début de l'entretien, en France, elle a peut-être eu des formes un peu plus atténuées parce que le maintien de l'ordre, il est évidemment le produit ou le résultat, les formes que prend le maintien de l'ordre, pardon, sont le résultat du compromis social dominant qui domine à un moment donné une société. Et longtemps en France, eh bien, ce compromis social, il n'était pas néolibéral. Et le néolibéralisme a peiné à s'imposer en France. Et donc il a fallu que les blocs qui étaient au pouvoir, blocs de gauche ou blocs de droite, composent avec des oppositions qui étaient fortes et qui finalement empêchaient l'introduction du néolibéralisme en France. Alors pendant ces premières décennies, disons 80, années 90, etc., il y a tout un ensemble de dispositifs qu'on décrit, la dette, l'indemnisation chômage par exemple, qui ont permis d'amortir les chocs du néolibéralisme et qui ont permis finalement, si on reprend l'expression de Wolfgang Streck, d'acheter du temps, oui. Voilà, et d'ajourner la crise du capitalisme et de la démocratie. Mais avec l'arrivée au pouvoir du bloc bourgeois, eh bien, on change de moment, on change d'époque, et cette bourgeoisie-là qui ne rend plus aucun compte aux fractions populaires, qui s'est déliée finalement des composantes populaires avec qui jusqu'alors elle gouvernait, eh bien, met en œuvre un programme de modernisation à marche forcée. Et avec différents instruments, la dette, le chômage, le dialogue social, qui lui permet de neutraliser la critique et de la récupérer, et puis évidemment, la mise en place d'un état d'urgence à l'intérieur duquel le recours à une police de plus en plus brutale, mais aussi à une justice qui de plus en plus fonctionne, une justice de classe, eh bien, lui permet de maintenir son pouvoir et d'assurer sa domination.
Alors on va s'intéresser rapidement à une des parties du livre qui porte sur les oppositions au sein de cette France néolibérale. Et je dois dire que c'est une partie qui est plutôt décourageante en fait quand on la lit parce que on a beaucoup d'oppositions qui apparaissent comme factices, comme impuissantes. On a un peu ce sentiment finalement que cette réalité de ce tableau, on a un peu de mal à pouvoir s'extraire, à pouvoir envisager de construire, commencer à construire en tout cas un autre tableau qui décrirait une autre société. Est-ce que finalement ça veut dire que ce monde néolibéral, c'est une forme de prison, d'enfermement dans lequel aujourd'hui est la société et que même ceux qui veulent en sortir n'ont pas aujourd'hui les clés pour pouvoir s'en échapper ?
Non, absolument pas. Aucun cas, c'est un livre qui est défaitiste. Non, simplement, par contre, vous avez raison, ce livre, c'est pas une médication, c'est pas un programme politique. On pense pas qu'un livre, même aussi ample que celui-là, puisse... remplacer une organisation collective pour transformer le monde. Donc voilà, il est à sa juste place, qui est celle de décrire ce qui nous a semblé être la société aujourd'hui, la société française aujourd'hui. Mmh. Et dans la partie opposition, eh bien, évidemment, c'est une question qu'on s'est posée, hein, mais je crois qu'on est dans un moment de très grande désorientation idéologique. Mmh. Et donc ces oppositions, des oppositions factices, des diversions, eh bien, côtoient les oppositions plus classiques ou consistantes qui combattent frontalement la dynamique néolibérale. Et on a voulu rendre compte de ça, de cet état de désorientation politique, idéologique, qui est quand même massive, et où les oppositions peuvent parfois prendre aussi des formes anomiques ou pathologiques.
Alors est-ce que finalement, cette sorte de chaos dans lequel sont les oppositions, c'est pas aussi le reflet d'une crise plus profonde de ce monde néolibéral, qui transparaît un peu à travers le livre, mais je dirais de façon un peu, pas forcément très, très établie avec une partie, etc. Mais est-ce que justement ce monde-là, il n'est pas en crise lui-même, parce qu'il n'est plus capable en fait de tenir les quelques promesses qu'il essaye de tenir, parce qu'il y a la crise écologique. Est-ce que tout ça, c'était quelque chose qui aurait mérité un chapitre en soi, ou est-ce que finalement vous pensez qu'il est diffus dans ce livre et que le lecteur doit aussi saisir ces éléments de crise à travers sa lecture.
Oui, il est diffus. Il est diffus, mais il y a néanmoins, je crois, un chapitre quand même qui en traite. Celui de Frédéric Le Baron sur la crise d'hégémonie. C'est vrai qu'on est dans un moment qui ressemble fort à une crise organique. Il y ressemble fort notamment parce que, la sécession de l'élite au pouvoir est de plus en plus manifeste, et les oppositions à cette élite-là sont aussi de plus en plus nombreuses et se multiplient. Et elle se multiplie à mesure que grandit dans la société la défiance envers tous les pouvoirs institués. Le pouvoir politique, évidemment, mais aussi le pouvoir médiatique, le pouvoir médical et scientifique. Donc oui, voilà, on est dans un moment où un moment de blocage et où les citoyens cherchent à se frayer un chemin dans un champ de ruines.
Alors, j'aurais juste pour terminer évoqué une partie qui est intéressante. Je crois que c'est la quatrième, ça s'appelle le monologue des travailleurs, qui est en fait une suite de témoignages de travailleurs, mais de travailleurs de tous les milieux. On a aussi bien des hauts fonctionnaires que des ouvriers, que des infirmiers, que des fonctionnaires, que des cadres. Voilà. Finalement, quelle est la fonction de cette partie-là, qui est très intéressante, où on a finalement un peu le cœur battant de cette France qui, n'est pas dans le séparatisme de la bourgeoisie. C'était finalement une façon de compenser justement cette partie séparatisme, de remettre finalement la parole des gens qui travaillent au cœur du livre. D'ailleurs, c'est le chapitre qui est au centre du livre.
Oui, il fonctionne un peu comme un cahier central, vous avez raison. C'est l'idée qui était celle, dans une discussion avec Günter Grass, que Bourdieu formulait, c'est-à-dire que les effets ou la violence, la brutalité des politiques mises en œuvre par le néolibéralisme ne peuvent pas être traités correctement ou purement par une approche conceptuelle. On se heurte à une limite, limite qu'il va essayer d'ailleurs de dépasser dans la misère du monde avec ses entretiens bruts qui est
l'inspiration aussi de
qui est une de ce livre. Non, alors très modestement non c'est
une l'inspiration
voilà. Voilà, c'est ça, mais non, on n'est pas dans ce registre là donc c'est l'idée d'essayer de voir aussi l'histoire par le bras, mm-hmm. le bas, de rendre compte de la manière la plus à terre de la façon dont vivent les gens aujourd'hui en France, dont ils travaillent, et puis à travers la diversité des portraits qui figurent dans le livre, on s'aperçoit quand même qu'il y a des dénominateurs communs, que les gens ne sont pas tout à fait à ce qu'ils font, qu'il y a un écart entre ce qu'ils recherchent et ce qu'ils en retirent, bref, qu'il y a une forme de fatigue et de dépossession qui touche tous les secteurs du monde du travail. Et il nous a semblé aussi que c'était un tressaillant de l'époque. Et donc on a voulu en rendre compte un peu à la manière, c'est pour la source d'inspiration, un peu à la manière de ce que Terkel avait fait aux États-Unis avec son livre Working, une histoire orale du monde du travail aux États-Unis.
C'est aussi redonner la parole finalement à ces gens qui, dans le monde du séparatisme de la bourgeoisie, ne l'ont pas en fait.
Oui, c'est juste. C'est vrai qu'il y a énormément de... Enfin, que le centre de gravité de cette partie-là, il est dans le monde ouvrier, il est dans le monde des petits employés, il est dans le monde des travailleurs sans papier, qui, plus que tous les autres, affrontent la violence néolibérale. Cela dit, dans la quarantaine ou la cinquantaine de récits que compte cette partie, on trouve aussi des travailleurs qui occupent, euh, qui occupent des fonctions de cadre supérieur, qui sont consultants, consultantes, art advisors.
Qu'on entend rarement parler comme ça.
Voilà, mais qui ont un rapport aussi un peu distant ou un peu, voilà, un peu interrogateur au travail qu'ils sont en train de faire.
Très bien, eh bien, écoutez, je vous remercie, Anne Poplard, d'être venue nous parler donc de ce livre, Le Nouveau Monde, tableau de la France néolibérale aux éditions Amsterdam, qui sera sans doute un livre utile pour la campagne présidentielle à venir et sans doute après. En attendant, nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de L'Écho à contre-courant. À bientôt.